En passant à Tibériade, là, je voudrais évoquer la mémoire d'un personnage extrêmement important et séduisant dans la tradition juive, Rambam, que nous appelons Maïmonide. J'ai entendu parler de lui pour la première fois par saint Thomas d'Aquin, qui s'inspire beaucoup de Maïmonide. Quand il parle du traité de la loi ancienne, il s'inspire beaucoup de Maïmonide. C'est un personnage de très très grande envergure, qui, d'après la tradition, est enterré à Tibériade. Il a vécu en Espagne. Alors il a écrit un commentaire de la Torah, une espèce de codification. On appelle la Yad HaChazaka, la main forte, ça fait allusion au langage de l'Exode, là. Dieu qui fait sentir son peuple à main forte et à bras étendus. Et puis alors il a écrit une œuvre philosophique, bien avant saint Thomas d'Aquin. Il a fait un effort de conciliation de la foi et de la raison en se servant des catégories aristotéliciennes de pensée. C'était nouveau, et la philosophie aristotélicienne, l'hylémorphisme, apparaît beaucoup plus apte que le platonisme, avec ses dissociations artificielles, pour penser, pas à la richesse de les révéler. Il y a une santé. Hylémorphisme, bien la matière et la forme, là, indissociables, il n'y a pas tellement de méfiance pour la matière, comme dans Platon, et il y a au contraire une invitation à ne pas dissocier la complexité humaine. Demandez aux philosophes, moi je sais pas, c'est justement parce que j'ai rien compris à la philosophie que je me suis plongé dans la Bible. Bon, et il a fait ce traité en arabe. C'est intéressant de remarquer au passage que pour un juif, apprendre l'arabe, c'est pas seulement une question d'opportunisme pour parler à son voisin de porte. Enfin, il y a toute une partie de la culture juive qui a été véhiculée en arabe. L'œuvre de Maïmonide, le guide des égarés, a été écrit en arabe. Un des plus grands poètes aussi, Yehuda Halevi, a écrit le Kuzari en arabe. Je me rappelle, Marcel, quand il est arrivé ici, on lui a donné une thèse à faire sur un auteur qui s'appelait Razdai Kreskas en Espagne. Il écrivait en hébreu, mais on ne comprenait son hébreu que si on savait l'arabe. Je me rappelle, c'était une difficulté qu'il a rencontrée au début, quoi, dans son arrivée ici. Oui. Et alors, ce Maïmonide était aussi médecin. Étonné plutôt que de vous faire toute sa biographie, là, je vous lis une prière qu'il fait auprès des malades. « Ô Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. N'admets pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art, car les ennemis de la vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement m'abuser et m'éloigner du noble devoir de faire du bien à tes enfants. Soutiens la force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais. Fais que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre. Que mon esprit reste clair près du lit du malade, qu'il ne soit distrait par aucune pensée étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné. Car grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes tes créatures. Fais que mes malades aient confiance en moi et en mon art, qu'ils suivent mes conseils et mes prescriptions. Éloigne de leur lit les charlatans, l'armée des parents aux mille conseils et des gardes qui savent toujours tout, car c'est une engeance dangereuse qui par vanité fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort. Si les ignorants me blâment et me raillent, fais que l'amour de mon art comme une cuirasse me rende invulnérable pour que je puisse persévérer dans le vrai sans égard au prestige, au renom et à l'âge de mes ennemis. Prête-moi, mon Dieu, l'indulgence et la patience auprès des malades entêtés et grossiers. Fais que je sois modéré en tout, mais insatiable dans mon amour de la science. Éloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des choses que je ne soupçonnais pas hier, car l'art est grand, mais l'esprit de l'homme pénètre toujours plus avant. J'en ai parlé, je crois, de Maïmonide dans cette journée charnière, là, on a parlé du messianisme juif, et je vous ai conseillé d'aller voir à la fin du traité Shoftim, là, comment Maïmonide parle du messianisme et comment incidemment il parle de Jésus et de Mahomet, leur donnant un rôle qui n'est pas complètement négatif. Alors je crois que c'est beaucoup de chrétiens posent toujours la question, mais qu'est-ce que c'est que le messianisme pour les juifs? Je pense que le mieux, c'est de se référer à ce grand homme-là qui formule comme il pense, ce qu'il pense, l'idée qu'il a du messianisme et de Jésus. Il dit que le monothéisme est un monothéisme un peu dévalué, au fond. Pour nous, c'est Dieu qui révèle non seulement qu'il est un, mais comment il est un. Pour lui, c'est plutôt une sorte de monothéisme dévalué. Mais alors, grâce à Jésus et à Mahomet, le monothéisme s'est répandu à travers le monde. Voyez, et ça n'est pas étranger au dessein de Dieu qui se poursuit. mais il reste là, et puis il continue à formuler, et puis il dit « Jésus, il est mort ». Et tout le problème est là. Ce qui nous sépare, au fond, c'est Jésus est-il lui ou non ressuscité? Vous vous rappelez Saint Paul, quand il comparait devant Agrippa à Césarée, il y a un bonhomme qui prépare les minutes du procès avant la comparution de Paul devant Agrippa. Il dit, ben, c'est une affaire de leur religion à eux. Ben, moi qui suis un païen, j'y comprends rien. Il y a Paul, il y a un homme qui est mort et Paul dit qu'il est vivant. Et alors Paul s'adressera à Agrippa, toi qui es juif, tu es capable de comprendre ça, la résurrection des morts. Et tout le problème, c'est Jésus est-il, oui ou non, ressuscité? Alors là, évidemment, ça peut présenter comme une sorte d'obstacle insurmontable. Et puis en même temps, cette folie de Dieu, je crois que pour les philosophes, encore une fois interroger des philosophes, le grand problème, c'est que Dieu puisse sortir de lui-même, au fond. Mais une fois qu'il est sorti de lui-même, qu'il a commencé à parler, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas par une sorte de folie jusqu'au bout? C'est défendu de représenter Dieu. Mais si Dieu prend l'initiative de parler, et puis de que sa révélation aille jusqu'à la crèche de Bethléem et à la croix, alors là, pour nous chrétiens, c'est bouleversant. Mais justement, en méditant sur les réticences que certains ont à penser dans la logique de l'Ancien Testament, on s'émerveille encore plus du mystère de Dieu qui se révèle jusqu'à s'anéantir. Il n'a pas gardé jalousement son égalité avec Dieu, dit saint Paul, il s'est anéanti jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, et que tout genou ploie devant celui que Dieu a fait Seigneur.
À Tibériade, il y a encore un endroit très intéressant, là, Ramat Tiberia, les eaux chaudes de Tibériade, une synagogue avec une mosaïque. On pourra aller voir tout ça. Disons quelques mots du Sanhédrin aussi. Vous avez le Sanhédrin qui a quitté Jérusalem en 70, qui a continué à développer la tradition juive, pharisaïque, surtout à Yavné. Et puis alors ensuite, elle est partie en Galilée. Les Juifs qui étaient interdits de séjour à Jérusalem, là, ont développé leur tradition, la Mishnah et puis le Talmud dit Jérusalem en Galilée. Le Sanhédrin a été ensuite à Oucha, du côté de Haïfa actuel, et puis ensuite à Shearim, là, et puis ensuite à Tsipori, et puis c'est ici à Tibériade que le Sanhédrin a été supprimé par je ne sais plus quel empereur byzantin, c'était Théodose. Mais alors, Tibériade est restée très importante comme école de scribes. C'est ici que, lorsque on a voulu inventer un système pour écrire aussi les voyelles dans l'hébreu, alors plusieurs systèmes ont été inventés par des grandes yeshivot, académies rabbiniques, je ne sais pas, Soura, Pumbeditor, je ne me rappelle plus très bien. Et l'école qui a triomphé, c'est ici à Tibériade, les punctatores de Tibériade. C'est eux qui ont inventé ce système de barres et de petits points qu'on a encore dans nos éditions actuelle de la Bible. C'est le système qu'il a emporté sur tous les autres et qui comporte aussi toute une interprétation.